Marcel.
La première,
le mug,
de 9h à 10h.
Il y a 100 ans, en 1920, est apparu pour la toute première fois le mot robot. C'était dans une pièce de théâtre de science-fiction signée par un écrivain tchèque absolument visionnaire, c'est Karel Čapek. Et depuis, le robot est devenu, bien entendu, une figure totalement incontournable de la pop culture, littérature, BD, cinéma. Et on s'intéresse ce matin à un livre consacré à un personnage extrêmement célèbre au Japon. Il s'agit d'Astro, le petit robot. Et pour nous en parler, on reçoit Nicolas Tellop qui signe ce livre Astro Boy, cœur de fer aux impressions nouvelles. Bonjour Nicolas Tellop.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste spécialiste cinéma, BD, vous êtes intéressé à la place particulière qu'occupe Astro dans l'univers des robots, on va y venir dans un instant, mais avant ça, 100 ans que le mot robot a été inventé. Mais ce que vous expliquez, notamment dans ce livre, c'est que finalement l'idée du robot préexistait à la création du mot, et notamment chez le philosophe René Descartes.
Oui, tout à fait. Enfin, lui il parle de machine.
Oui.
Il évoque évidemment tout ce qui est à la mode à l'époque en termes de mécanismes d'horlogerie, d'automates qui sont très recherchés, les automates qui font semblant de jouer aux échecs par exemple, ou le fameux canard de Vaucressin qui digère en direct ce qu'on lui donne dans la bouche, enfin dans le bec plutôt. Mais surtout, il pense que nous-mêmes, les êtres humains, nous sommes des machines et que les animaux eux aussi sont des machines, sauf que ce qui nous différencie des animaux, c'est que nous, on a une âme, on a un esprit, et que les animaux, eux, sont des êtres purement pulsionnels, sensitifs, et qui répondent juste à des besoins et à des désirs, comme la nourriture, par exemple, ou la nécessité de se reproduire.
Ouais.
Et c'est un mouvement purement mécanique.
Et c'est donc, par la suite, bien après, Karel Čapek, ou Čapek, je ne sais pas exactement comment on prononce d'ailleurs, il est tchèque, il a inventé le mot robot tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'était dans une pièce de théâtre qui date de 1920. Et vous vous êtes penché, vous, sur les racines du mot, où on retrouve des traces des notions de servitude, d'esclavage, mais aussi la notion d'enfant et d'orphelin.
Oui, tout est lié. Il y a une racine indo-européenne qui se prononce Orb, donc c'est O-R-B-H, qui désigne à la fois un petit enfant, un orphelin et un esclave. Ça a débouché, ce Orb, sur le grec Orphanos, qui renvoie à l'orphelin, le sanskrit Arba, qui désigne un faible enfant, et le proto-slave Orbata, qui désigne la servitude, c'est-à-dire le travail forcé ou l'esclavage. Et donc, ça va donner plus tard le slave robota et robotnik en tchèque. Et tout ça, c'est ce qui va permettre à Čapek ou à Čapek, je ne sais pas non plus comment on prononce, de forger le mot robot.
Alors, ça tombe bien parce que Astro, justement, il est à la fois enfant, robot et orphelin aussi.
Voilà.
Dans le secret d'un laboratoire du Futurapolis, le professeur Battus a créé un nouveau robot. Cependant, ce robot du 21e siècle n'est pas tout à fait comme les autres. C'est un enfant robot.
Voilà, ça c'est un extrait de la série de dessins animés créée dans les années 80, hein. Il y en a eu plusieurs adaptations, de ce manga qui au départ est né en
51, c'est la création du personnage, mais le manga en tant que série autonome, c'est 52. Oui.
Voilà, c'est ça, d'un des grands maîtres du genre, Osamu Tezuka. C'est un succès phénoménal. Quelle place occupe Astro, le petit robot, dans la pop culture au Japon?
C'est une place qui est centrale, d'abord parce que c'est un des mangas les plus populaires de l'époque et qui va rester en tête des ventes pendant plus d'une décennie, voire 15 ans. Mmh. Et même si les lecteurs vont un peu se détourner de cette figure, notamment à partir des années 70 ou même la fin des années 60, en fait, vu que comme en France, le Japon est frappé par les révoltes étudiantes et la révolution culturelle de manière générale. Et donc, ce qu'Astro incarne, c'est-à-dire un certain optimisme et puis une certaine vision très très positive de l'enfance, finalement, ça n'a plus lieu d'être. Mais par contre, sa figure, son image, son icône, elle va traverser les décennies. Et encore aujourd'hui, c'est une sorte d'ambassadeur de la culture japonaise et du manga en particulier. Et on le retrouve à chaque fois. Enfin, il y a un musée Tezuka, évidemment, dont il est le fer de lance. On le retrouve dans plein de circonstances très différentes, comme par exemple, dernièrement, quand il y avait des manifestations au Japon pro-nucléaires, l'image de Astro était brandie. Ouais. Pour montrer que c'était un petit peu l'incarnation du progrès technologique et de l'avant-gardisme en la matière des Japonais.
Oui, parce que alors il faut rappeler le contexte de l'apparition de ce personnage, 1951. On est donc forcément après la Seconde Guerre mondiale, après Hiroshima, Nagasaki, et on a un petit robot qui fonctionne à l'énergie atomique. Et c'est quelque chose qui avait été mal compris à l'époque par certains qui pensaient que c'était une manière de faire l'apologie du nucléaire.
Bah oui, et qui est toujours mal compris, la preuve, hein, le fait de le brandir comme ça, comme un signe de caractère bienfaisant, cette énergie, ça montre bien que ça a été mal compris, et c'était au grand dam de Tezuka qui lui-même a dit à plusieurs reprises que c'était pas du tout ce qu'il voulait dire, et que il priait ses lecteurs de bien relire le manga, parce que ça n'était pas du tout son intention. Et effectivement, en fait, Astro, c'est un personnage qui est très positif, qui incarne l'espoir. Et comme il est lié à l'énergie atomique, parce que son cœur, enfin son
oui, on peut dire son cœur,
son moteur.
Oui, son moteur. Ouais.
C'est ça, son moteur. C'est l'énergie nucléaire. Le lien était vite fait, en fait. C'était de se dire, ben voilà, un personnage qui a réussi, en fait, à détourner le côté malfaisant et traumatique de l'énergie nucléaire, parce que avec Hiroshima et Nagasaki, on peut pas dire que ça ait laissé des très bons souvenirs aux Japonais. Mais en fait, c'était pas du tout l'intention de Tezuka. Lui, ce qu'il voulait, c'était incarner un personnage qui véhiculait un certain imaginaire, une certaine force et une certaine valeur morale. Et l'énergie atomique, ce n'était qu'un prétexte, en fait.
Ouais. Il y a une anecdote dont on n'a pas encore parlé, Nicolas Taylob, c'est la rencontre inaboutie entre Osamu Tezuka, donc le papa d'Astro, et Stanley Kubrick, qui avait proposé en 1965 à Tezuka de devenir le directeur artistique de 2001, l'Odyssée de l'espace.
Ouais, tout à fait. Ça s'est pas fait parce que il aurait fallu que Tezuka emménage pendant quelques mois, voire un peu plus, à Londres. Et donc il a refusé, s'imaginait pas quitter aussi longtemps le Japon. Mais c'était vraiment une volonté de Kubrick, parce qu'il était fasciné par la capacité de Tezuka à imaginer justement des décors et une technologie qui serait à peu près vraisemblable et en même temps féerique et merveilleuse. Et je pense que Kubrick a été évidemment marqué par Astro de quelque façon que ce soit. Est-ce qu'il a eu accès au manga en lui-même, ou est-ce qu'il a vu l'animé? Mais en tout cas, c'est Astro qui a dû marquer très profondément son imaginaire, au point que l'un de ses films qu'il a pas pu faire aboutir, comme Napoléon par exemple, l'un de ses projets qui lui tenait le plus cher au cœur, c'était d'adapter une nouvelle américaine qui mettait en scène un petit enfant robot. Et on voit que c'était une façon déguisée, évidemment, de s'approprier la figure d'Astro. Film-là va exister parce qu'il va le léguer quelque part intellectuellement à son ami Steven Spielberg.
Ouais.
Intelligence artificielle.
Ouais. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que chacun a sa manière, finalement. Stanley Kubrick d'un côté, Osamu Tezuka de l'autre, ont inventé deux robots iconiques dans la pop culture, mais qui sont diamétralement opposés. On a d'un côté HAL, le système informatique doté d'intelligence artificielle, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est une espèce de machine invisible, en quelque sorte, qui a l'aspect d'une machine, et Astro, qui lui, est un robot à forme humaine.
Oui, tout à fait. Enfin, je pense que HAL, il s'inscrit dans l'imaginaire du robot moderne, celui du XXe siècle, celui en fait qui existe déjà en germe dans La créature de Frankenstein de Mary Shelley. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est un personnage qui est une pure machine à calculer, c'est-à-dire dénué d'affect, dénué de sentiments et dénué évidemment de valeur morale. Ouais. C'est la grosse différence qu'il y a avec Astro. Parce que, quelle que soit la figure que l'on prenne par rapport au robot, comme par exemple celui de Descartes ou celui d'Asimov ou de Philippe K. Dick, le robot, il se définit toujours comme quelque chose qui manque par rapport à l'être humain. Il lui manque toujours quelque chose. Ouais. Chez Descartes, il manque l'âme. Mm-hmm. Chez Philippe K. Dick ou Asimov, il manque les valeurs morales, les sentiments, etc. Mm-hmm. Or, Astro, lui, il se définit complètement à l'opposé, parce que par rapport à l'homme, lui, il possède quelque chose de plus. Il n'a pas quelque chose de moins qui lui manque, il y a quelque chose de plus par rapport à l'être humain. Ce qu'il a de plus, c'est un cœur plus courageux, c'est des sentiments de générosité, des valeurs morales qui sont inaltérables et qui font de lui un être meilleur, en fait, que les êtres humains qu'il rencontre la plupart du temps dans ses aventures. Mmh.
Merci Nicolas Tellop d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle votre livre consacré à ce personnage, ce robot si singulier et fascinant, Astro Boy, Cœur de Fer, c'est aux éditions Impression Nouvelle. Et puis allez jeter aussi, évidemment, un œil sur le manga de Osamu Tezuka. Merci beaucoup Nicolas Tellop, belle journée à vous. Dans un instant, Cathy Mellen nous dira tout sur Tom Hanks, acteur préféré des Américains. À tout de suite.
Le mug
sur la première.